Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur la science ouverte et les logiciels libres avec Mélanie Clément-Fontaine, professeure de droit privé à l'université de Paris-Saclay et Alexandre Hoquet, historien des sciences, professeur à l'université de Lorraine. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors première question toute simple, qui êtes-vous ? On va commencer par Alexandre. Vas-y.
D'accord. Je suis historien des sciences, donc, et mon sujet, c'est l'utilisation de logiciels en sciences, en particulier dans le domaine de la modélisation. Et mon étude de cas préférée, c'est ce qu'on appelle la modélisation de molécules entre les années 70 et aujourd'hui. Et c'est une histoire qui accompagne le logiciel depuis quasiment ses débuts.
D'accord. Mélanie ?
Eh bien, je suis enseignante-chercheuse, donc directement concernée par l'open science et la science ouverte. Et puis, mes thèmes de recherche concernent ces domaines, puisque je travaille depuis des années sur les logiciels libres. Et dans le prolongement, je participe au plan national pour la science ouverte et je suis membre du groupe Logiciels libres et ouverts.
On a déjà eu le plaisir de t'avoir dans l'émission pour parler de licence libre pour les logiciels. Mais comme j'ai mal préparé cette partie, je ne me souviens pas du numéro, mais je sais que sur le salon web, on va me le signaler et je pourrais vous le signaler. Alors donc, le sujet principal, donc science ouverte et logiciel libre, on va pas aborder toute la science ouverte, on vous prévient tout de suite pour les personnes qui écoutent, parce que c'est très très large. On va un petit peu se restreindre à la partie qui nous intéresse le plus, mais on va quand même commencer déjà par un petit peu parler de la science ouverte, parce que j'avoue que quand... Alors je vais préciser une chose, d'ailleurs, c'est Alexandre, en fait, Hoquet, qui nous a contacté il y a quelques mois pour nous proposer ce sujet, donc que j'ai trouvé très intéressant, et je me suis dit quand même tout de suite que science ouverte, pour moi, ça veut dire qu'il y a de la science fermée, donc est-ce qu'on peut essayer de préciser un petit peu ce qu'est la science ouverte ? Est-ce qu'il y a une définition de la science ouverte, Mélanie ?
Alors, je vais retenir une définition générale et presque institutionnelle qui consiste à dire que la science ouverte, c'est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche financées sur des fonds publics. Alors, l'objectif est à la fois économique et démocratique. Il s'agit de permettre à toutes et à tous l'accès au savoir à des fins de formation, de recherche, d'innovation. Et la science ouverte doit également favoriser la transparence de la recherche et donc est un levier pour l'intégrité scientifique.
Mais alors quelque part, j'aurais envie de dire, c'est la science doit fonctionner comme ça. Donc, alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Alexandre Hoquet.
Alors, pour faire une petite historicisation du concept, c'est donc il y a une version institutionnelle, mais il y a aussi des initiatives qui datent de plusieurs années, voire plusieurs décennies, qui viennent de la base dans certaines situations, dans certaines communautés. Par exemple, il y a toujours un mécontentement envers l'industrie de l'édition scientifique et les profits qu'elle réalise. Il y a un mécontentement envers le processus même de publication, ce qui fait sa validité, le fait qu'il est relu par les pairs, c'est considéré par certains comme un processus qui est toujours un peu opaque, et donc qui demande des changements dans le processus même de validation des publications, etc. Il y a des initiatives qui appellent aussi à plus d'inclusivité, comme par exemple la promotion d'une science citoyenne, ce genre de choses.
D'accord. Et en termes historiques, est-ce que vous pourriez essayer positionner quelques dates dans l'histoire de la science, en tout cas, est-ce que c'est récent ce concept de science ouverte ? Est-ce que ça a été lancé à un moment par une structure qui le formalise ? Avant qu'on parle un petit peu des avantages et peut-être aussi des limites, quelques dates peut-être pour un petit peu positionner ça dans l'histoire ? Qui veut répondre ?
Alors,
vas-y Alexandre,
pour continuer sur ce que je disais, il y a dans la science ouverte une référence souvent implicite au principe du libre, et donc du coup historiquement il y a quelque chose qui est lié, disons, aux années 80-90 où d'une part il y avait une industrie du logiciel représentée par Microsoft, quoi, pour faire vite, qui correspond à quelque chose des pratiques de plus en plus fermées dans le monde du logiciel, avec le lock-in, etc.
Avec quoi ?
Le lock-in, c'est-à-dire la captation des utilisateurs. D'accord. C'est une technique classique de Microsoft. Mmh. Et donc, il y a aussi une transformation du monde académique de cette époque-là, qui est très néolibéral. Reagan, Thatcher, encouragement du recours aux brevets, à la création de start-up, et particulièrement dans les sciences du vivant. Et du coup, en opposition, des principes du libre qui sont eux-mêmes liés à une vision de la science en réaction à cette évolution, le désintéressement, l'universalisme, la mise en commun, etc.
D'accord. Mélanie ?
Oui, alors tu évoquais le fait qu'il y ait de la science fermée. Oui, il y a de la science fermée parce que les productions intellectuelles relèvent d'un droit de propriété intellectuelle et le propre de ce droit, c'est de créer un monopole. Donc de permettre à quiconque qui dispose de ces droits de s'opposer à l'utilisation, la réutilisation de ces contenus scientifiques. Alors en contrepoids, il y a eu le logiciel libre qui vient d'être évoqué, qui a donné une autre façon d'envisager le rapport à la production intellectuelle. Et à cela s'est mêlée aussi toute la politique de l'open data qui consiste à mettre à disposition les données publiques. Alors ça, c'est ancien, hein, ça date des années 70 et ça n'a été que renforcé dans le temps. Donc ces deux mouvements venant du public, venant du privé, eh bien, se sont réunis dans cette notion de science ouverte et des institutions internationales se sont emparées de cette question. L'UNESCO, par exemple, a fait une déclaration sur la science et l'utilisation du savoir scientifique en 99. L'OCDE a publié en 2006 des lignes directrices en vue de guider vers cette science ouverte, donc d'élargir finalement la mise à disposition partant des données publiques à plutôt des contenus scientifiques et des données scientifiques. Donc c'est un vrai élargissement d'un mouvement qui vient d'initiatives privées, logiciel libre, et d'initiatives publiques telles qu'on le voit.
D'accord. Tu veux compléter, Alexandre? Vas-y.
Bon, je voulais aussi juste dire que la science, c'est aussi une compétition. Hein. Donc, il y a un côté, selon les époques et les contextes, cette compétition elle se traduit par plus ou moins de secrets ou plus ou moins d'ouverture selon des tas d'influences. En particulier, il y a une influence du capitalisme aussi. Hein, c'est que selon les contextes aussi, le business, il demande plus de secrets, comme par exemple dans l'industrie pharmaceutique, les molécules.
Dont on parle beaucoup en ce moment.
Voilà. Ou par ailleurs, aussi, il peut demander plus d'ouverture, comme par exemple la demande de moins de barrières à la circulation de l'information pour pouvoir créer un marché de la donnée, par exemple.
D'accord. Il y a sur le salon. Ah, je précise que si vous voulez intervenir pendant l'émission, n'hésitez pas à venir sur le salon web de la radio, hein, site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. D'ailleurs, une remarque d'une personne qui dit que si c'est fermé, c'est de la recherche et développement, pas de la science. Donc, est-ce que par défaut, la science ne devrait pas être en fait ouverte?
Je suis d'accord. La science, c'est la confrontation de différentes analyses, de différents points de vue. C'est pour ça que le chercheur, lui, il n'a de cesse d'avoir accès à de plus en plus de contenu, un fond commun de connaissances. Donc, il y a un paradoxe à poser des entraves à l'accès à ce savoir. Mais il se trouve qu'il y a aussi des contraintes économiques, c'est-à-dire que diffuser des contenus, ça a un coût. Il y a un savoir-faire. Et moi, par exemple, en tant que chercheuse, je suis capable de faire du contenu scientifique, mais alors éditer un ouvrage, que ça soit en ligne, sous papier, j'en ai pas les moyens, j'en ai pas les compétences. Donc, on a forcément recours à des fonds. Et quand ils sont privés, eh bien, en contrepartie, évidemment, on va nous demander une exclusivité sur notre production scientifique.
D'accord.
Bah, il y a toujours une tension entre ce que la science devrait être et ce que la science est en pratique. La science, c'est aussi une industrie. Hein, donc la question du secret et de l'ouverture, elle se pose aussi des fois en termes industriels, dans les instruments scientifiques, par exemple.
Alors, est-ce que la science ouverte... Alors, je précise que j'y connais vraiment pas grand-chose. Hein, est-ce que la science ouverte s'oppose quelque part, finalement, à... Moi, l'image qu'on a... Enfin, que souvent, je pense, les gens ont un petit peu des publications scientifiques, c'est ces fameuses grandes revues pour lesquelles les chercheurs et les chercheuses doivent payer pour être édité, pour être publié, et que les autres doivent payer pour avoir accès. Donc est-ce que ça correspond à une réalité avec ces grandes revues, et est-ce que la science ouverte finalement quelque part s'oppose à cette logique ou pas du tout? Émilie Clément Fontaine.
Je dirais que c'est une alternative. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. C'est comme le logiciel libre, hein, il y a toujours des diffusions dites propriétaires de logiciels. Ça répond à un système économique, à un modèle économique. Et à côté de ça, eh bien, on peut faire autrement. Et c'est cela qui est intéressant, c'est cette pluralité de diffusion. Et c'est vrai que là, on parle de contenus et de données qui sont produites avec des fonds publics. Donc il y a une certaine logique à ce que les personnes qui ont contribué financièrement par les impôts, par les taxes, à financer cette recherche publique puissent en retour avoir accès à ce fonds commun. C'est une belle chose que d'avoir ce domaine public qui s'étend et à destination de toutes et tous.
Alexandre ?
Moi, je dirais aussi que les textes scientifiques, comme les pratiques scientifiques en général, ils dépendent eux-mêmes de beaucoup de ils sont pas les mêmes dans, d'une communauté à l'autre, comme par exemple, la façon de publier n'est pas la même. Les différentes sociétés savantes ont pas la même approche de la question de est-ce que les textes doivent être en libre accès ou pas, par exemple. Certains domaines de la science, particulièrement en sciences humaines, ils comptent beaucoup sur le livre, et donc ils dépendent beaucoup sur les négociations avec des maisons d'édition.
C'est-à-dire pour que leur livre soit édité, c'est ça.
Voilà, et qu'ils aient la plus grande publicité possible aussi. Quoi. Comment dire ça? Il y a du prestige différent dans les différentes maisons d'édition. Et il y a d'autres domaines, comme par exemple la physique des particules, où là, les gens sont complètement mis en commun tout, une façon de publier qui radicalement s'oppose aux grandes maisons d'édition et propose eux-mêmes leur, comme Archive, quoi, eux-mêmes leur propre dépôt de publication qui ne dépendent pas.
Archive.org, le site.
Ouais.
Je vais relayer la question que je vois là sur le salon web, mais juste avant, ta remarque me fait venir une question par rapport à ces publications, cette importance. Quel rôle joue pour les chercheurs et les chercheuses par rapport à votre avancement de carrière? Alors, je mets entre guillemets, hein, en tout cas par rapport à votre carrière, le fait d'être publié dans des revues ou des livres, est-ce que ça a un impact? Quel impact ça a, tout simplement?
Ça, c'est un sujet qui est vraiment discuté, par exemple, dans le programme de la science ouverte, le plan national, parce que nous sommes évalués par nos publications. Donc, c'est une question sensible. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de valoriser, justement, les publications libres. Et pour cela, eh bien, il y a une création d'une plateforme nationale qui, il existe HAL, et c'est
alors HAL, H-A-L. Tu te souviens ce que ça veut dire
Je me souviens plus.
Hyper archive en ligne, je crois.
Oui, peut-être, ouais. Un truc comme ça.
Ouais. Ouais. Désolée. À force d'utiliser des acronymes, on en perd le sens. Donc c'est un véritable enjeu pour les scientifiques. Un autre enjeu, c'est l'usage de la langue, parce que diffuser, c'est une chose, être compris par le reste du monde, c'en est une autre. Donc là aussi, il y a un véritable effort à mener, un accompagnement à faire. Il ne suffit pas de déclarer que ça va être ouvert, ça va être accessible à tous pour que ça fonctionne. Donc c'est un engagement, c'est un accompagnement, c'est des moyens qui doivent être mis en œuvre.
Alors par rapport à ça, je te laisse réagir Alexandre, ma compréhension de la publication par des revues scientifiques, c'est qu'il y a une obligation, en tout cas un engagement de valider le contenu par le relecture, par les pairs, etc. Si j'avais bien compris, vous me corrigerez. Et donc ma question est, dans le cadre de la science ouverte, est-ce que ça fonctionne de la même façon? Ou est-ce que simplement, n'importe quel scientifique peut publier sur une archive, comme on vient de le dire, voilà, mes recherches, est-ce qu'il y a une sorte de validation ou de revue par les pairs? Alexandre.
Alors, il y a une remise en cause de ce principe, ouais. Parce que effectivement, d'une part, par exemple, en archive, c'est ce qu'on appelle un préprint, quelque chose qui, dans la pandémie, s'est répandu dans le monde, alors qu'avant, c'était un objet assez obscur, c'est-à-dire quelque chose qu'on met en ligne pour pouvoir être lu avant même...
Qu'il soit publié.
Voilà, avant même qu'il soit même validé.
Validé, d'accord.
Ouais, ouais. Et bon, voilà, il y a à la fois une question de rapidité, parce que être le premier, c'est quelque chose qui compte énormément en science, mais il y a aussi une question de diffusion, de faire savoir, de médiatisation. Et par ailleurs, il y a une forme aussi radicale de relecture qui consiste à dire je mets mon texte ouvert à la communauté, et par exemple, ça peut exister qu'il soit commentable, et que donc n'importe qui, comme dans Wikipédia par exemple, n'importe qui peut à ce moment-là commenter. Et ce qui est...
On laissera Mélanie réagir.
Ce qui est une version radicale d'être ouvert, mais pas une version qui, du coup, qui peut être en tension avec qu'est-ce que c'est que être accepté par ses pairs et par qui sont les pairs exactement, etc.
Ok, alors Mélanie Clément-Fontaine, tu as réagi sur l'analogie avec Wikipédia.
Oui, parce que là, je crois qu'il n'y a pas un modèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce modèle Wikipédia où il y a quand même des règles éditoriales qui sont assez fortes. Hein, et on ne peut pas tracer un seul modèle de diffusion d'ouvrages en science ouverte. Je crois qu'il y a, il va falloir s'adapter aux différents cas. Certains papiers doivent, il est bon qu'ils soient relus, qu'il y ait des pairs, documentaires qui attestent de la valeur scientifique. D'autres, il est bon qu'ils soient diffusés vite. Donc, à chaque cas, son modèle. Ce qui va se poser, alors ça, c'est une question, hein, l'évaluation, la traçabilité aussi, la source, ça c'est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de désinformation. Donc, il s'agit ici aussi, avec la science ouverte, de renforcer la qualité des contenus aussi que l'on trouve en ligne. Il y a une vraie bataille culturelle, de diversité culturelle et de qualité qui est derrière ce mouvement de science ouverte. Et donc, tout cela, eh bien, va sans doute être accompagné aussi de conditions d'accès, de diffusion. Et ça pourrait prendre la forme de licence comme on les connaît dans les licences, dans les logiciels libres.
D'accord. Alors, je relaye une petite question sur le salon web avant de poursuivre. Il faut juste que je la retrouve. C'était par rapport aux langues dont tu parlais tout à l'heure, Mélanie. Il y a Marie-Odile qui demande si les publications sont toujours en anglais.
Non, bien sûr que non. D'accord. Non, la francophonie est encore défendue aujourd'hui, et puis d'autres langues, bien sûr. Et quand je parle de diversité, ça c'est très très important. C'est-à-dire, il s'agit effectivement de rencontrer l'autre, donc de se faire comprendre, et les traductions sont importantes. Mais le langage initial, la langue initiale, elle a son importance, surtout dans des domaines en sciences humaines où les mots n'ont pas de traduction immédiate dans d'autres langues.
Oui, en sciences humaines. Donc, la situation, elle est très, très différente dans d'autres communautés. Hein. Il y a des communautés où ce n'est même pas envisageable de publier en autre chose qu'en anglais. Ça ne servirait à rien d'un point de vue de la logique de combien compte une publication, quoi.
D'accord. Et, ouais. Alors, j'ai une question. On a parlé de la science ouverte, donc de l'accès aux publications, mais les recherches scientifiques s'appuient aussi sur des données, sur des méthodes. Est-ce que la science ouverte, ça veut dire que toutes les données sont toujours également accessibles de manière à pouvoir vérifier ce qu'affirme la personne qui a publié, voire reproduire? Est-ce qu'il n'y a pas des limites, par exemple, on parle de sciences humaines au niveau de la vie privée, peut-être, je ne sais pas, sur des échanges personnels qui pourraient, voilà. Sur la question, dans la science ouverte, qu'est-ce qui est ouvert, en fait? C'est la publication, c'est les données, les logiciels, on en parle. Alors après, est-ce que c'est les méthodes de la recherche aussi? Qui veut commencer? Ou qui veut répondre? Alexandre, vas-y.
Dans la définition que Mélanie a donnée tout à l'heure, il y avait accès et données, hein, si je me souviens bien, qui sont les deux grands piliers. Je parle de piliers parce que je sais que Roberto Di Cosmo, quand il parle du logiciel, il parle du troisième pilier, on va y revenir, j'imagine. Et donc, effectivement, accès, c'est les textes, et données, c'est les données. Et l'idée que pour pouvoir avoir confiance dans une expérience qui a eu lieu, qui a été publiée. Le texte d'une publication suffit pas pour essayer de refaire la même chose. Donc, l'idée des données, ce qui est contestable d'un point de vue de la philosophie des sciences, mais l'idée des données ouvertes et fournies, c'est que on peut les réutiliser, d'où l'utilisation de licence Creative Commons, parce que c'est la question, c'est la réutilisation.
Ouais.
Et donc, le problème, cette fois, du point de vue de l'historien, du philosophe des sciences, c'est que les données d'une expérience, elles sont situées elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles dépendent largement de comment l'expérience a été faite, de quelle valeur, de quelle théorie la personne a mis dedans, et les données qu'il récupère, une fois qu'on les transpose dans un autre contexte, essayer de refaire la même expérience, par exemple, elle supporte mal le voyage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est pas du tout naturel qu'une donnée puisse être reprise sans que ça transforme quelque chose à sa valeur scientifique, à sa valeur épistémique.
D'accord. Mélanie?
La science ouverte, tout dépendra de ce qu'on en fera. Et donc, si on veut que ça soit aussi un moyen de transparence de la recherche, et notamment avec des thèmes comme la bioéthique ou l'intelligence artificielle qui vont avoir une incidence très importante dans nos sociétés, eh bien, il faut effectivement une transparence des sources. Mais en principe, la recherche, c'est ça. C'est aussi donner ses sources. Donc, tout dépendra de la politique qu'on défend de la science ouverte. Ensuite, ça peut constituer des freins si l'on veut, mais c'est surtout des garde-fous. Il y a des questions telles que la protection des données personnelles, des données sensibles, la confidentialité, la sécurité. Il y a des intérêts commerciaux légitimes qui pourraient freiner certaines mises à disposition. Eh bien, cet équilibre, il est à trouver, et on parle d'un principe aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire. Voilà l'équilibre qu'on va chercher.
D'accord. Alors, quels sont en fait les avantages de la science ouverte et l'intérêt à la fois pour les scientifiques, mais pour le public ? Première question, déjà, en vous en tant que scientifique, quels avantages vous voyez à la science ouverte? Et après, je vous poserai vraiment la question sur les freins ou et les éventuelles limites. Déjà, pour vous en tant que scientifique.
Je l'ai dit plus tôt, c'est le dynamisme intellectuel. C'est évidemment accéder à des connaissances pour continuer sa recherche. C'est l'innovation. Certains parlent d'innovation, moi j'aime pas tellement ce terme, mais il existe. C'est aussi un enjeu démocratique, c'est-à-dire l'accès à tout un chacun au savoir, la transparence, l'éthique. Donc ce sont là tous les enjeux qui font qu'on s'engage dans ce mouvement de la science ouverte.
Alexandre Roquet ?
Oui, pour compléter, c'est à peu près la même chose, mais pour compléter, il y a aussi l'espoir de ne plus dépendre d'une énorme industrie qui est très peu populaire dans le monde de la science, mais qui est intrinsèquement liée au monde de la science, qui est celle de l'édition scientifique, et à laquelle on reproche beaucoup de choses. Les scientifiques reprochent beaucoup de choses. Et bon, mais pour des raisons historiques, ils y sont quand même complètement liés.
D'accord. Alors, je poursuis ma question, après les avantages et intérêts, est-ce qu'il y a des limites ou des freins pour la science ouverte ? Freins qui peuvent être institutionnels ou autres, je ne sais pas, ou limites. Est-ce que vous en voyez ? Il n'y en a peut-être pas. La question est ouverte.
Ah ben moi j'en vois plein.
J'en ai évoqué quelques-uns avec justement des données que l'on ne va pas divulguer pour des raisons diverses.
Est-ce qu'il y a des freins institutionnels ou autres ? Ouais, Alexandre, okay, visiblement que tu en vois plein. Si disons un ou deux principaux.
Moi, je dirais, si je devais le citer, je pense qu'il y en a plein. Si je devais en citer un, je pense qu'il y a un frein industriel. La science, c'est qui dans plein de domaines, pas tous, hein, pas les mathématiques par exemple, qui dépend d'une industrie scientifique, hein, qui est celle des instruments par exemple. Et donc, par exemple, je sais pas moi, un spectroscope de résonance magnétique nucléaire, ça, c'est quelque chose c'est un instrument scientifique très courant, mais qui a aussi un énorme investissement. Ça coûte des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Et c'est quelque chose qui repose sur des compagnies qui vendent ces instruments et pour qui la confiance de l'instrument est absolument pas basée sur le fait que l'instrument est transparent. Il l'est pas du tout. Il y a même des secrets industriels, etc. Par contre, la confiance, personne, mais il y a beaucoup moins de contestations quant à la validité des résultats que donne un de ces spectroscopes, par exemple.
D'accord.
C'est qu'il y a eu un énorme processus d'acculturation des scientifiques qui l'utilisent à un appareil qui a gagné sa légitimité par un processus de négociation entre industriels et scientifiques. Et en l'occurrence, là, la confiance, elle n'est pas du tout sur le fait qu'il est transparent, il ne l'est pas.
D'accord. Mélanie, tu voulais compléter ?
Oui, ça rejoint la question du financement. La science ouverte vise les publications et les données de la recherche financées par des fonds publics. Donc à partir du moment où on dépend de fonds privés, on n'est plus dans le cadre de la science ouverte. Ça va être la fracture, et il y a beaucoup de projets qui ont un double financement. Donc là, il va y avoir des tensions nécessairement entre deux mouvements, celui de la réservation, du secret, de la propriété, et celui de l'ouverture, la diffusion.
D'accord. Est-ce qu'on a des chiffres ou en tout cas des tendances sur l'évolution des publications en sens ouverte, que ce soit dans le monde ou en France, sur ces dernières années ?
Alors, vous en retrouverez sur le site. J'ai vu qu'il y avait des liens qui avaient été mis.
Oui, alors tous les liens qu'on citera, on ne va pas vous les répéter. Vous irez sur libreavoue.org et vous aurez la liste de tous les liens.
Oui. Voilà, sur le plan national de la science ouverte, qui montre qu'il y a une évolution. Il y a véritablement beaucoup plus de publications en science ouverte.
Et
l'objectif, c'est d'atteindre 100% d'ici 2030. Voilà, c'est le projet.
Alors, l'objectif en France ou dans le monde ?
En France.
Ah, en France.
On parle du plan national de la science ouverte.
Donc 100% par contre sur les recherches financées sur fonds publics.
Exactement.
D'accord. Tu voulais compléter, Alexandre ?
Non, c'est ça.
D'accord. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le salon web, en fait sur la partie logicielle. Donc je vous préviens, on va l'aborder. D'ailleurs, on va bientôt faire une pause musicale et on abordera la partie logicielle juste après. Sur cette partie introductive à la science ouverte, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose avant qu'on fasse la pause musicale ? On peut y revenir dans le cours de l'émission, mais le temps avance. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé ? On reviendra évidemment sur le plan dont on a parlé dans la deuxième partie de l'émission. Cette introduction.
Moi, je suis pressé de passer à la partie logicielle.
Je sais bien. Et à fond, il est dans les starting blocks. Mélanie.
On voit bien qu'il y a eu une conjonction de circonstances qui sont favorables, qui a été favorable à l'émergence de la science ouverte et le lien qu'il y a avec les logiciels libres, ce qu'on développera sans doute dans la deuxième partie.
Ben, on va aborder ça effectivement dans la deuxième partie. Donc, en attendant, nous allons faire une courte pause musicale. Si je me souviens bien, on va aller du côté du Brésil. Nous allons écouter Benvido par Madame Rose, C'est la vie. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Um problema esquecido, nada divertido, porque não terei ido. Veja o perigo, ninguém me dá abrigo. Não sou mais bem-vindo, mas permaneço vivo. Pra onde estou indo agora é que eu não ligo. Não sou mais bem-vindo, mas permaneço vivo. Pra onde estou indo agora é que eu não ligo.
Trouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Nous venons d'écouter Benvido par Madame Rose, C'est la vie. Disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Donc nous allons poursuivre notre discussion sur la science ouverte et les logiciels libres, donc avec Mélanie Clément-Fontaine, qui est professeure de droit privé à l'université de Paris-Saclay, et Alexandre Roquet, qui est historien des sciences, professeur à l'université de Lorraine. Donc juste avant la pause musicale, on parlait de science ouverte en général, mais notre émission est consacrée principalement aux libertés informatiques et notamment aux logiciels libres. Donc on va un petit peu maintenant aborder la question du logiciel, même si on reviendra sur le plan pour la science ouverte dont on a parlé tout à l'heure, hein, on y reviendra. Avant de relayer les questions que j'ai vues sur le salon web passé, je vous rappelle causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Alexandre, ok. Moi, en préparant l'émission, je me suis dit, mais quels sont les logiciels utilisés, alors libre ou pas, peu importe pour l'instant, dans le monde de la science? Et je me suis dit, mais j'en ai aucune idée. Alors, c'est quoi les logiciels dans le monde de la science?
Alors, puisque vous me posez la question, donc les logiciels auxquels on pense en premier, hein, quand on pense logiciels en science, sont les logiciels créés par les informaticiens. Donc dans le domaine de l'informatique, la computer science, ils sont souvent l'objet...
La science informatique.
Ouais. Ils sont souvent l'objet lui-même de la recherche. C'est-à-dire que produire un logiciel fait partie du produit de recherche qu'a l'informaticien. Mais ça représente qu'une toute petite partie des logiciels utilisés en science. Par exemple, si vous êtes modélisateur du climat ou épidémiologiste, vous développez des modèles et vous créez des logiciels qui vont les transformer en calculs sur l'ordinateur. Mais le code lui-même, ce que vous avez créé, n'est pas l'objet lui-même de la recherche. Ce qui fait une énorme différence. Et ensuite, il y a tous les instruments scientifiques dont on vient de parler, ils contiennent en eux des logiciels. Évidemment, traitement du signal, traitement de la donnée, c'est des choses qui sont... dans tous les instruments, il y a plus aucun instrument scientifique qui n'ait pas, pas une partie logicielle importante en lui et propriétaire. Et donc, ça, c'est une énorme partie invisibilisée des logiciels. Et ensuite, il y a, impossible de faire une liste, hein, mais il y a plein d'usages possibles. Et il y a aussi énormément de logiciels utilisés qui ne sont pas eux-mêmes scientifiques. Photoshop, c'est largement utilisé dans le traitement d'images en science.
Ah oui.
Et avec tous les problèmes que vous pouvez imaginer, hein, il pourrait utiliser GIMP, il existe des logiciels libres de traitement d'images, ImageJ, je crois, créés par des scientifiques dont c'est le boulot de montrer des images, particulièrement en biologie moléculaire. Les gels d'électrophorèse, c'est des photos qui sont les preuves. Et il y a Excel, qui est largement utilisé pour des utilisations qui n'ont même pas grand-chose à voir avec un tableur, comme par exemple lister des grandes listes de données pour qu'on met en matériel supplémentaire dans les publications, justement pour pouvoir ouvrir les archives. C'est sous format souvent XLSX et largement un format très peu ouvert, et il y a pas tellement de raison d'utiliser un tableur plutôt que de faire un fichier texte tabulé, quoi. Et, oui. Et pourtant c'est une pratique qui est vraiment très très répandue.
D'accord. Mais c'est une pratique qui est liée, en fait, à la pratique personnelle des scientifiques, ou est-ce que c'est une obligation, entre guillemets, par rapport à leur institution ?
C'est pas une obligation du tout, c'est leur culture qui veut ça. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est pas vraiment de la science d'utiliser Excel pour faire des listes de tableaux, mais n'empêche que ça a des conséquences épistémiques, c'est-à-dire que ça a des conséquences sur comment la science marche en pratique. Et ces pratiques-là sont largement dépendantes de la culture des gens, donc de ce à quoi ils sont habitués d'utiliser comme outil. Et Excel et Word en font partie.
D'accord. Et tu disais que c'était principalement développé par des informaticiens et des informaticiennes, mais est-ce que les chercheurs et les chercheuses développent, parce que bon, c'est des gens qui, avec des langages, peuvent développer elles-mêmes, en fait, des logiciels, par rapport à un besoin spécifique.
Carrément.
De leur recherche. Je suppose, en fait, qu'il y a plein de logiciels qui existent qui correspondent à une seule recherche. Est-ce que c'est ça ou pas?
Il y a des milliards de scripts Python, de GitHub et plein de codes.
Alors, GitHub, c'est une plateforme sur laquelle on peut héberger des logiciels libres, elle-même n'étant pas libre.
Voilà. Oui.
Bon.
Mais parce qu'effectivement, il existe des phases d'utilisation, d'informatique pas amateur, mais dont ce n'est pas le cœur du métier, et pour pouvoir résoudre des problèmes ponctuels. Par des scripts Python, il y en a des centaines, des milliers.
Alors, Mélanie, tu veux intervenir ? Vas-y.
Oui, alors il y a deux niveaux. Il y a le chercheur lambda qui n'est pas informaticien et qui utilise des outils. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les établissements publics tels que les universités, il y a eu quand même tout un discours pour inciter les chercheurs à utiliser des logiciels libres et donc un peu lâcher Word, Excel et Anko. Donc ça, c'est une chose, et c'est aussi inciter les étudiants, futurs chercheurs, à utiliser. Donc c'est logiciels libres. Et puis la deuxième chose, c'est que l'on constate qu'il y a une production, au moins en France, de logiciels libres importants. Là, on a ouvert un prix du logiciel libre. Il y a eu quand même 129 candidatures d'excellente qualité. Et donc, ce prix, il a pour objectif de mettre justement en lumière ces projets, et identifier ces projets d'excellence qui pourraient servir de modèle aussi pour les autres. Et donc, a été ciblé notamment les qualités de pertinence scientifique et technique, ça c'est un premier prix, aussi la synergie communautaire autour du projet, ça c'est un second prix, la documentation qui paraît important, et puis il y a le prix suprême qui réunit toutes ces qualités, c'est le quatrième prix, ou le premier prix si on veut.
Il y a aussi
Préciser que l'annonce des résultats sera dans quelques jours. Alors peut-être que quand le podcast sera disponible, les résultats seront disponibles, mais en tout cas on les mettra évidemment en référence sur libreavoue.org, et c'est le prix de la science ouverte du logiciel libre de la recherche. Il y a quatre catégories, donc on mettra évidemment les références. Alexandre ?
Oui, je voulais juste dire aussi qu'il y a des tensions institutionnelles parfois à l'intérieur même de l'université, parce qu'il y a une vraie volonté politique, par exemple il y a des chargés de mission de la science ouverte dans les universités, donc qui encourage effectivement à adopter le libre, disons. Mais d'un autre côté, il y a d'autres structures dans l'université, comme les offices juridiques, par exemple, qui ont au contraire une attitude qui parfois est à l'opposé du libre, qui recommande de déposer
des brevets. Tu voudrais dire que les experts en droit d'auteur veulent plutôt restreindre la diffusion ?
Ça se passe dans le cas de photographie, par exemple.
Photographie,
mais ensuite,
d'accord.
Mélanie est sûrement plus qualifiée que moi pour avoir un meilleur panorama que moi de ces questions. Mais il y a des tensions à l'intérieur même des institutions aussi.
Alors, avant de parler de cet aspect-là, on va en parler, je ne l'oublie pas, notamment sur l'aspect licence. Je vais quand même relayer une question qui était sur le salon web donc, tout à l'heure, et par rapport donc, aux recherches qui utilisent des logiciels. On sait que les logiciels, souvent, ils ont des bugs. Hein. Donc, il doit y avoir forcément des résultats de recherche scientifique qui sont faux, non pas par rapport aux données, mais par rapport au logiciel qui est buggé. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce qu'on a souvent cette impression-là après vérification? Et quelque part, est-ce que... D'abord, je vais poser cette question. Est-ce que ça arrive souvent?
Ça arrive tout le temps.
Tout le temps?
Oui.
D'accord.
Oui, oui. Disons que c'est la question du logiciel et de la science ouverte, c'est aussi une question d'avoir confiance dans les calculs. Et c'est aussi une question... Donc, c'est pour ça que la science ouverte, on l'associe vraiment très souvent à la notion de transparence, donc à la notion de reproductibilité des résultats et ce genre de choses. Et donc, ces questions-là, en particulier que les logiciels, dans les années 2020 et 2010 aussi, c'est de plus en plus leur complexité, c'est qu'ils font appel à d'autres logiciels. Il y a des interdépendances de librairies, ça c'est quelque chose que les auditeurs connaissent parfaitement très bien, et en science ça existe aussi. C'est très difficile de, même si vous avez publié votre logiciel 10 ans avant pour être ouvert, c'est très très difficile de refaire le calcul pour des tas de questions de d'interdépendance de librairies qui ont évolué entre temps, par exemple.
Donc ça suppose qu'il faut archiver aussi avec les données le logiciel tel qu'il a été utilisé au moment du calcul.
Voilà, oui.
C'est également.
Et j'imagine que c'est un des avantages que préconise le Roberto Di Cosmo et le Software Heritage, par exemple. Peut-être Mélanie est plus que moi là-dessus, mais il y a la question de pouvoir reproduire des vieux logiciels.
Alors, juste préciser donc, que Software Heritage, c'est un projet de plusieurs structures, dont notamment l'INRIA. Si je me souviens bien, Roberto Di Cosmo était chercheur là-bas. L'idée, c'est de faire une archive mondiale de logiciels, pas forcément logiciels libres. On a invité Roberto Di Cosmo dans Libre à vous. Donc, vous y allez sur libreavous.org et vous cherchez le moteur de recherche Roberto Di Cosmo et vous trouverez. Sinon, on mettra le numéro de l'émission ici. Oui, tu voulais compléter ou c'est...
Non, c'est effectivement quelqu'un qui est aussi un acteur bien connu dans le monde du livre.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
On peut ajouter que c'est un des défis du groupe de logiciels libres du plan national de la recherche qui va devenir un collège, c'est cet archivage justement des logiciels.
On va en parler. Voilà. Ouais. Alors l'émission avec Roberto Di Cosmo, Software Heritage, c'est l'émission numéro 13. Alors je vous rappelle, sur le nouveau site web de Libre à vous, vous faites libreavous.org/13 et vous retrouvez le podcast et la transcription. Et comme c'est une émission que ça fait longtemps qu'on l'a faite, le numéro 13, sachant qu'on est là 130 aujourd'hui. Je pense qu'on va réinviter un moment Roberto pour avoir un petit peu une mise à jour de savoir où on en est. Tout à l'heure, Alexandre, tu parlais des services juridiques, des instituts de recherche et autres, et j'avais l'impression que tu avais envie d'en dire beaucoup de mal, mais je vais pas te relancer là-dessus, mais par contre, j'aimerais bien avoir l'avis de Mélanie sur le sujet. Quelle est justement la... Parce que c'est vrai qu'on a un peu dans l'idée peut-être que du côté des services juridiques, on aurait plutôt envie d'essayer de conserver les droits d'auteur, etc., et autres, de contrôler pour essayer d'en faire un maximum de fric quelque part. Est-ce que ça, c'est toujours comme ça ou pas du tout? Ou c'est une image totalement fausse que j'ai? Comment ça fonctionne?
Ça dépend où on se trouve. Quand on est dans des établissements publics, oui, il y a une question de valorisation. On connaît ce modèle. En fait, c'est une question de formation. Si vous avez un service juridique qui est formé, qui est constitué de juristes qui n'ont pas été sensibilisés à ces questions, ils appliquent leur modèle de valorisation. Donc, il y a une vraie transformation d'état d'esprit à faire. Et j'ai un master. J'essaye de former des futurs juristes qui seront dans ces bureaux de valorisation pour vers la science ouverte, vers les modèles libres, les licences libres, afin qu'ils sachent qu'il y a des alternatives et selon les projets, eh bien, il sera pertinent plutôt d'aller vers du propriétaire et selon d'autres, plutôt vers une ouverture libre, science ouverte, etc.
Mais en tout cas, d'un point de vue logiciel, dans le concept de science ouverte, le fait que ce soit du logiciel libre, c'est, enfin, je rappelle une obligation parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une définition, mais est-ce que c'est une obligation quelque part pour que ça rentre dans le mécanisme de science ouverte, le fait que s'il y a des logiciels, ils doivent forcément être libérés sous une licence libre. Est-ce que ça rentre dans les critères de science ouverte? C'est-à-dire que
les logiciels sont compris maintenant dans les données publiques, Alors c'est la France
la loi
a
de
fait
2016,
ce choix. Voilà, c'est la France
loi
a fait
pour
ce choix.
Numérique.
C'est pas un choix imposé par l'Union européenne. La directive de 2019 laisse le choix aux États de décider que les programmes d'ordinateur, les codes sources sont des données publiques. En France, c'est le choix qui a été fait. Donc, en tant que données publiques, elles doivent être diffusées et elles doivent être, on doit pouvoir les réutiliser. Donc, a priori, si c'est produit par un établissement public, eh bien, ce sont des logiciels qui suivent la science ouverte et donc des logiciels libres.
D'accord. Alexandre ?
Moi, je dirais aussi qu'il y a cette fois, au moins dans la rhétorique, mais aussi dans les pratiques, il y a des normes des scientifiques. Il y a une référence diffuse au principe du libre, avec l'idée que si, par exemple, un code source doit être ouvert pour qu'il soit transparent, donc pour qu'il soit reproductible, donc qu'on ait des meilleures pratiques scientifiques. Mais bon, déjà, c'est plus compliqué que ça. Hein. Il suffit pas qu'un code source soit transparent pour que ce soit reproductible. Mais il y a, je dirais, peu de conscience des quatre libertés ou ce genre de référence classique.
Rappelle-nous les quatre
libre.
Libertés du logiciel libre. Moi, en quatre mots. Hein.
Moi, je crois que toi, tu connais mieux que moi.
Mais hein, c'est toi l'intervenant, c'est pas moi.
D'accord. Bah, disons, pour moi, le plus important, c'est qu'il y a un côté, il y a la première, c'est-à-dire celle que, par exemple, dans le cadre des articles, que le texte soit ouvert à tous. C'est quelque chose qui est, c'est comme ça que beaucoup de gens le comprennent. Mais, par exemple, la question de la réutilisation, c'est quelque chose qui est très 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 mal compris dans le milieu scientifique, même si on se réfère au logiciel libre en tant que, inspiration de la science.
D'accord. Alors les quatre libertés, c'est utiliser, étudier le fonctionnement, modifier, redistribuer. Voilà. Et c'est la dernière qui fait la communauté, le fait qu'on redistribue, qui n'est pas forcément une obligation, d'ailleurs on va le rappeler en fonction des licences. Mais...
Et par exemple, les articles, les publications scientifiques sont souvent en licence Creative Commons BY, donc qui
BY ?
BY.
Ah, BY, attribution.
Oui,
attribution.
Oui. Attribution, voilà. Ouais. Et j'essayais de le dire en français, mais donc, du coup, c'est quelque chose qui est, tout le monde est content parce qu'on peut lire l'article, mais personne ne se rend compte, par exemple, qu'on pourrait très bien copier-coller des morceaux d'articles, de plusieurs articles en sous cette licence, et en faire un article. Et que ça paraît délirant même, mais c'est quelque chose qui est en tension avec des normes, par exemple, de qu'est-ce que c'est que le plagiat.
Ah, ça veut dire que, alors la question est intéressante, parce que je vais laisser d'ailleurs Mélanie réagir là-dessus. Ça veut dire que tu supposes, ou en tout cas tu sous-entends que du point de vue du scientifique, ce genre de licence pourrait encourager effectivement un sorte de plagiat entre guillemets, quelque chose qui n'est pas forcément super bien vu dans le monde scientifique. C'est ça? Et je laisse Mélanie réagir derrière.
Oui, mais sauf que ça dépend des communautés encore une fois, mais que le plagiat c'est une norme qui vient de la littérature, pas de la science. Par exemple, en science, ce qui compte c'est d'être le premier à publier, donc vous pouvez publier la même chose ensuite.
D'accord.
Vous êtes le deuxième, donc ça compte pas.
Ok. Mélanie ?
Oui, en fait, je crois que là, il faut faire attention. C'est-à-dire que la science ouverte, c'est rendre facile l'accès, l'interopérabilité, la réutilisation. Mais réutilisation, ça ne veut pas dire qu'on va puiser et puis on va faire ça à sa sauce. Sur l'écrit, on n'est pas dans le logiciel. C'est-à-dire qu'il y a même les logiciels, il y a cette question d'attribution. C'est-à-dire citer sa source, citer ce qu'on emprunte pour attribuer à la bonne personne l'extrait. Et donc, dans l'écrit, mais on va retrouver la même chose, c'est-à-dire que si on récupère une phrase, un paragraphe, eh bien, il y a des guillemets, c'est une convention, on cite sa source, on dit qui a écrit cela avant, et on peut très bien intégrer effectivement ces extraits dans un autre développement.
Alors, je vais juste préciser que quand tu parlais tout à l'heure, Alexandre, de la licence Creative Commons attribution, le attribution veut exactement dire ce que veut dire Mélanie.
Bien sûr.
C'est qu'on cite. Après, il y a d'autres licences libres. Dans les musiques qu'on a diffusées aujourd'hui, certaines sont sous licence libre attribution. C'est d'ailleurs pour ça qu'on attribue, on parle de ça,
bien
on
sûr.
Met les liens, etc.
Bien sûr.
Alors, le temps passe super vite. Il nous reste encore un petit peu 10 minutes et quelques, mais rassurez-vous. On reviendra un petit peu sur le logiciel si on a besoin, mais je voudrais quand même qu'on avance pour être sûr qu'on aborde tous les points qu'on avait prévus, parce que notamment Mélanie a cité deux choses, hein, enfin plusieurs choses, mais notamment le plan de la science ouverte, donc 2021-2024, dont on se rappelle l'objectif, hein, 100% de science ouverte pour les recherches publiées sur fonds publics, et tu as parlé aussi, ou peut-être que tu n'as pas encore parlé, mais je vais le citer, le comité pour la science ouverte dont tu fais partie, et dont l'un des co-présidents est d'ailleurs Roberto Di Cosmo, l'autre est François Pellegrini, qui est chercheur à l'université de Bordeaux et membre du collège de la CNIL notamment. Alors, c'est quoi ce plan national de la science ouverte et c'est quoi ce comité pour la science ouverte? Quelles sont les relations? Mélanie.
Alors, ce plan national pour la science ouverte, c'est une démarche de la France de s'inscrire activement dans la science ouverte, donc de donner aussi sa vision de ce que devra être la science ouverte. Il faut savoir que la France est prise dans un mouvement européen, l'Union européenne s'est engagée dans son programme à promouvoir la science ouverte. C'est un mouvement mondial, les autres États, il y a des accords multilatéraux en sciences ouvertes, et donc la France, elle, a voulu se positionner, et donc pour cela a créé ce plan national en 2018 pour accompagner ce mouvement, et là on est en deuxième phase, c'est le deuxième plan national pour la science ouverte qui couvre la période 2021-2024 et qui vise à généraliser les pratiques de la science ouverte, à partager et ouvrir les données de la recherche. Et donc a été ajoutée dans ce programme la promotion des codes sources produits par la recherche. Donc initialement, ce comité national, il est composé encore de 4 collèges. Un collège concernant les données de la recherche, un deuxième sur les compétences et la formation, un troisième sur les publications et enfin le collège européen et international. Et là, le groupe de travail auquel je participe, eh bien, va être transformé en un collège intitulé Code source et logiciels, parce que on le voit finalement, les logiciels ont une place essentielle dans la science ouverte en tant qu'outil et puis en tant que simplement objet de cette recherche.
D'accord. Tu voulais réagir, Alexandre, ou...
Non, ça me paraît une excellente définition.
D'accord. Et donc, le prix dont on parlait tout à l'heure, de la science ouverte, du logiciel et de la recherche, c'est ce comité qui est en charge de faire le choix?
Alors, c'est ce groupe qui a créé ce prix, ces prix, parce qu'ils sont quatre. C'est une initiative qui va être reconduite tous les ans, qui va être suivie par le collège, avec cette idée vraiment de mettre la lumière sur des beaux projets qui montrent le dynamisme qu'il y a dans ce domaine et qui donne exemple aussi pour d'autres projets. Et puis par ailleurs, ces derniers jours, là, ces derniers mois, en janvier et février, ont été organisés des ateliers où on a invité en fait les personnes à nous dire les points sur lesquels il leur semble important de travailler. Et donc nous on a une feuille de route fin du collège du code source et du logiciel libre. Et évidemment, c'est ces informations qui vont être présentées le 3 février prochain dans le cadre des Journées européennes de la science ouverte. Eh bien, toutes ces données vont nous indiquer finalement quels sont les ateliers sur lesquels on va plancher plus encore.
D'accord. Enfin, ça donne l'occasion, mais on n'a pas fini de préciser. Donc, les Journées européennes de la science ouverte, initialement, devaient avoir lieu en présentiel complète à Paris. Donc, la plupart des intervenants et intervenantes seront à Paris, mais ce sera diffusé en distanciel, donc sur le site. Vous retrouverez les références sur libreavoue.org. Et notamment, il y a des conférences le vendredi 4 et le samedi 5 février. Alors, beaucoup de choses peut-être en anglais. Je ne sais pas s'il y aura des interventions en français. Et Mélanie nous dit que oui. Et ça va couvrir beaucoup de sujets. Il y a une partie logicielle. Il y a évidemment une grosse partie, je suppose, autour, effectivement, autour des médicaments, des pandémies, etc. Donc, je pense qu'il y a Roberto Di Cosmo ou peut-être François Pellegrini qui doivent intervenir. Est-ce que toi, Mélanie, tu interviens?
Non, c'est pas
d'accord.
Prévu.
Okay. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. C'est visible en ligne parce que je ne sais pas si les vidéos seront disponibles après.
Je suppose. Je crois que c'est. Je pense aussi qu'il y a une traduction simultanée pour ce qui est en anglais.
Il y a une traduction.
Je crois. Ça a été comme ça les autres années, je crois.
Ah, j'ai une question, alors je pense que c'est pour toi Mélanie. Attendez, c'est sur le salon web, je vous rappelle, donc site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, n'hésitez pas à venir, il nous reste quelques minutes. Donc c'est une question, je lis le texto la question, est-ce que les délires marketing basés sur la science, entre guillemets, pendant la pandémie de Covid-19 a eu une influence sur le travail du comité pour la science ouverte?
Alors je ne sais pas de quel délire marketing il s'agit.
La propagande, apparemment. Alors je ne sais pas exactement de laquelle il parle, mais...
Je ne sais pas.
Alors, j'encourage donc la personne Shinobi qui a précisé éventuellement, c'est trop vaste. Voilà, c'est ça.
En tout cas. Ce qui est certain, c'est que tous les débats qu'on a sur la désinformation motivent à encourager la science ouverte. Parce que par science ouverte, on entend quand même la diffusion de travaux de qualité. Donc c'est pas parce que c'est de libre accès et on encourage les chercheurs à publier directement leur recherche que cette recherche est de mauvaise qualité. Et c'est une recherche faite par des personnes qui passent du temps, qui confrontent leur travail avec d'autres. Et donc ça, c'est, je pense que dans ce contexte-là, en tout cas, c'est extrêmement important.
Alors, il nous reste peu beaucoup de temps. Je vous rappelle qu'il y a la dernière question, mais Alexandre, je vous laisse réagir.
Ouais, je voulais
réagir.
Juste dire que ce que me fait penser, moi, la pandémie, c'est que l'image de la science, en 2 ans, elle a radicalement changé.
Dans quel sens ?
Du point de vue du grand public. Au sens où, par exemple, des tas de gens, les médias, par exemple, ont découvert que c'était qu'un préprint. Et ses avantages, ses inconvénients. Et avant, c'était quelque chose, c'est un objet inconnu du grand public. Il y a aussi quelque chose qui s'est radicalement passé au point de vue d'une ouverture de la science, qui est l'apparition de plateformes. Quelques années avant, mais elles sont vraiment développées là pendant la pandémie, de plateformes qui critiquent les articles scientifiques. C'est comme Pupir, c'est une Pupir, c'est une plateforme qui, grosso modo, c'est un forum web où chaque fil de discussion est en fait un article identifié par son identifiant unique et les gens commentent par exemple, le fameux article de Didier Raoult en mois de mars 2000, il va y avoir 2 ans.
Je m'étais dit qu'on arrivait à faire une émission sur la science ouverte sans prononcer ce nom. Non. Vas-y, fais ça.
C'est effectivement un épisode important.
Effectivement,
parce que,
tu as raison. Ouais.
Parce que, du coup, cet article a été critiqué par de tas d'horizons différents.
D'accord.
Statistiques, éthiques, etc.
Okay.
Pas simplement une communauté. Et d'autre part, le plus pire, c'est quelque chose qui a fait tomber des têtes. Par exemple, la manipulation d'images sous Photoshop. Qui
D'accord.
est une utilisation
ah, oui.
de logiciels classiques et comment dire, qui peut aller de la simple embellissement jusqu'à une fraude manifeste. C'est quelque chose. Des tas d'articles scientifiques sont tombés parce que des gens ont repéré des retouches d'images sur parce que c'est devenu faisable pour un amateur de voir ce genre de choses. Et donc, par exemple, au CNRS, des têtes sont tombées. Donc, au CNRS, ils ont pas une bonne image au point de vue science ouverte de ce que représente cette plateforme.
J'imagine.
Voilà.
Ils ont pas l'habitude.
C'est une forme radicale d'être ouverte qui est critiquable, hein, parce que comme ça peut être, mais alors n'importe qui peut dire n'importe quoi, peut être, comment dire, se venger de quelqu'un, par exemple, etc. Un peu comme dans Wikipédia aussi.
D'accord. Je vois bien que tu aimes beaucoup l'analogie Wikipédia.
Oui.
Bon, on arrive à la fin de notre échange. Hein. On reparlera de ce sujet, on y reviendra, ça c'est évident. Je vous laisse le mot de la fin sous forme de conclusion, donc soit pour ajouter quelque chose, mais soit plutôt pour me dire, en fait, en moins de 2 minutes, les points essentiels à retenir pour les gens qui nous écoutent. Qui veut commencer ?
Alors moi, je voudrais juste ajouter une information. Il y a un appel à manifestation d'intérêt pour rejoindre le collège du code source et logiciel. C'est très important parce que on veut élargir la communauté des experts qui constituent ce collège. C'est un collège pluridisciplinaire. Il y a des informaticiens, des juristes, des économistes, de la science, de l'information, etc. Donc si cela vous intéresse, allez sur le site et répondez à cet appel à manifestation d'intérêt.
Je crois que ton voisin va sans doute m'en montrer un intérêt peut-être.
Bon. Oui, il n'y a pas d'historien effectivement.
Alors, Alexandre Roquet, en moins de 2 minutes, les points essentiels à retenir selon toi, et après on finira avec Mélanie.
Ok, alors pour moi, le besoin de science ouverte, ça s'interprète comme un symptôme que quelque chose, ou plusieurs choses, ne vont pas bien dans les pratiques scientifiques. Une crise de confiance. Et c'est quelque chose, si on se situe, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes frustrations d'une communauté à l'autre. En médecine, il y a une pression énorme, par exemple, pour échapper aux soupçons de collusion avec des intérêts privés. En physique des particules, il y a des conditions favorables pour un rejet unanime de la domination de la publication par les gros éditeurs, etc. Et donc mon point, c'est qu'il n'y a pas de solution globale. Et en ce qui concerne le logiciel, la communauté la plus visible, celle de l'informatique, elle a ses propres frustrations, comme par exemple l'action de la reconnaissance de l'écriture logicielle, à la contribution d'un programme. Mais le logiciel existe partout en science, et la question des utilisateurs, elle est souvent oubliée, au point d'en arriver à un déni. La grande majorité des logiciels ne seront jamais ouverts. Et on ne peut pas résoudre la question de la confiance sans tenir compte de ça. Et voilà. Même les développeurs en informatique, qui appellent des librairies, par exemple, c'est en fait aussi des utilisateurs et qu'ils ont des problèmes d'utilisateurs en plus de leurs problèmes de développeurs.
Ben merci Alexandre Roquet. Mélanie Clément-Fontaine ?
Je dirais que la science ouverte, c'est l'affaire de toutes et de tous. Hein. C'est-à-dire que c'est une opportunité incroyable de partager des connaissances. On a parlé de la publication d'articles qui ont été critiqués. Il faut penser aussi en tant que recherche, c'est-à-dire que quand on publie, ce sont des hypothèses qui sont mises à débat, mais à débat constructif. C'est-à-dire qu'on va se répondre, on va ensemble former former une œuvre qui évolutive, collective, et à l'image finalement des logiciels libres.
Bah écoute, merci pour cette belle conclusion. Donc c'était Mélanie Clément-Fontaine, professeure de droit privé à l'Université de Paris-Saclay. Alexandre Hoquet, historien des sciences, professeur à l'Université de Lorraine. Je vous rappelle donc que ce week-end, en ligne, il y a les Journées européennes de la science ouverte. Nous mettrons sur le site libreavoue.org toutes les références qui ont été citées. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez sur libreavoue.org, vous retrouverez tout. Je vous souhaite, bah écoutez, de belles fins de journée.
Merci pour votre invitation.